I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun, Hulk left slot,
Dixie left, T left,
Mercedes, wide chip, Ricky,
Fever left, 75, Katie, Omaha,
we're going.
Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Go ahead, goal line, touchdown, touchdown,
touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 507 du podcast Touchdown Actuel. Mathieu, très heureux de vous retrouver. On va parler NFL et on va débriefer encore une fois les matchs de la semaine. Les trois plus grosses affiches, puisque maintenant, dès le mardi matin, vous avez le débrief des trois premières affiches. Ça vous fait une sorte d'avant-goût du débrief complet qui arrive le mercredi matin. À mes côtés, l'homme du Sud, Lucas Vola, est avec nous. Bonjour,
ouais,
Lucas.
Salut, salut Alain, salut tout le monde. L'homme du Sud, ouais, c'est pour ça que j'ai toujours un petit quart d'heure de retard. Hein. Les gens, on est enregistré, donc les gens ne le savent pas, mais j'ai toujours un petit quart d'heure de retard.
Ne t'inquiète pas. Il fait beau, il fait chaud encore dans le sud ou pas, j'en profite.
Oui, bah oui. Ça fait météo. Oui, il fait chaud, il fait chaud. Je passe du coq à l'âne, mais pendant le générique, j'étais en train de me dire, je me rappellerai de ce moment quand en semaine 17, on se dira, c'est déjà la semaine 17, alors qu'en semaine 2, on se dit, oh, c'est le début, on est bien et tout ça. Je me rappellerai de ce moment précis.
En m'installant et en fermant la fenêtre aussi, parce qu'il fait frais mais beau, je me disais aussi, ah, ça va faire bizarre au mois de novembre, tu sais, quand on fera ça, mais qu'on sera plus en t-shirt ou qu'il fera hyper froid ou qu'on en sera à l'époque des chauffages à fond et tout ça. Bon, faut encore apprécier le mois de septembre en NFL, il fait encore un peu beau. Lucas, on va débriefer donc les trois affiches marquantes. Deux grosses remontées au programme aujourd'hui et puis une petite équipe qui monte, qui va peut-être être forte un jour. On commence tout de suite avec les Ravens et les Dolphins. Ravens 38, Dolphins 42. Les Ravens qui avaient ce match en main, le résumé était écrit, mais vraiment écrit puisque c'est moi qui le faisais. J'avais les deux tiers du truc, je peux vous le dire. Ils menaient 35-14 à ce moment-là. Lamar Jackson était incroyable. Et puis les Dolphins ont pris feu, et puis la défense de Baltimore s'est écroulée. Est-ce qu'on a enfin vu le Tua Tagovailoa que tout Miami attend, Lucas ?
C'est possible, hein, c'est possible, c'est fort probable. Je dois commencer par un mea culpa, alors je le fais peut-être trop tôt, mais peut-être certains s'en rappellent que je ne croyais pas du tout en Miami cette année, et je ne croyais pas forcément en plus à cette attaque. Je disais que Tyreek Hill, c'est sûr que c'est bien, que c'est très fort, mais que je n'étais pas sûr que ça les amènerait au niveau où on les espère. On l'a pas forcément vu la semaine dernière face aux Patriots, encore que, mais là c'est vrai qu'on le voit vraiment, on voit que cette attaque, et on voit Tagovailoa très bon qui arrive à distribuer à Tyreek Hill forcément, mais même à Waddle qui a des espaces grâce à Tyreek Hill notamment. On parle souvent du bras de Tagovailoa qui est peut-être pas le plus puissant, et c'est vrai que sur le premier touchdown de Hill, il est obligé de s'arrêter un petit peu, et je me suis dit, bon, c'est vrai que, et puis sur celui d'après quand même, il y a quand même de la puissance, donc bon, à la limite, on va dire que c'est Hill qui va trop vite.
C'est pas mal vu. Je pense qu'il aura jamais de toute façon un bras élite. Voilà, c'est pas son truc. On a compris. Bon, parce que comme tu le dis, c'est même sous-dosé. C'est un match bizarre parce que sur toute la première mi-temps, moi j'ai l'impression que ça va un peu au ralenti du côté de l'attaque de Miami, qu'on a le, bah voilà, on a ce qu'on a depuis deux ans en fait quoi. C'est un peu mou. On se dit bah c'est bien d'avoir Tyreek Hill, mais si c'est pour lancer des passes de 3 yards ou pas le trouver, ça sert pas à grand chose. Et puis il y a cette explosion une fois qu'ils sont menés assez largement. La fiche finale elle est dingue parce que ça fait 469 yards, 6 touchdowns et 2 interceptions. Les deux interceptions sont en première mi-temps et puis il y a 5 des 6 touchdowns qui sont en deuxième mi-temps. Donc je vais pas m'enflammer. Évidemment c'est beaucoup mieux. Il y a Tyreek Hill qui est à 190 yards, Jalen Waddle qui est à 171 yards. Donc c'est pas souvent que t'as deux receveurs à plus de 170 yards dans une même équipe. Après voilà, je peux rien reprocher. Pour moi ça demande quand même confirmation parce que quand t'as deux mi-temps qui sont aussi différentes, bah ça pondère un peu la fin. Alors après encore une fois, tu peux pas leur retirer ce qu'ils ont fait. Mais...
Après, étant donné qu'on est en début de saison, est-ce que plutôt que de voir une mi-temps et deux mi-temps différentes, on verrait pas une progression qui va vers le haut? C'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'il faut dire, enfin, ça demande confirmation. Parce que si la semaine prochaine ils refont une première mi-temps comme celle-là, on dira juste que c'était peut-être même un feu de paille. Mais bon, on a vu le match contre les Patriots la semaine dernière qui a été gagné, mais bon, qui a pas été impressionnant notamment en attaque. On a vu cette première mi-temps et puis peut-être qu'ils sont en train de monter en puissance. On a vu Mostert un petit peu plus utilisé aussi dans le jeu au sol. On a beaucoup et on parlera beaucoup du jeu aérien, mais le jeu au sol a été aussi un petit peu important. Il a été plus utilisé, même s'il enchaîne pas énormément de yards, mais il crée un petit peu de d'incertitude dans la défense. Il y a Gesicki aussi qui a été trouvé notamment sur un superbe touchdown où il monte à 3 mètres, je sais pas combien il monte si vous l'avez en tête, mais la passe est très haute et il saute. Donc il y a des choses, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de choses en attaque, ça demande confirmation. Mais bon, le bénéfice du doute aussi pour le nouvel entraîneur qui est peut-être en train, lui, de mettre en place ses idées offensives et qui sont en train de fonctionner. Donc en tout cas, ça a été un super match, un match très spectaculaire. C'est vrai que indépendamment de ça, on s'est régalé. Enfin, je sais pas pour toi, mais perso, en revoyant le match, parce que je vais avouer que je l'ai pas vu en direct, mais en revoyant le match, je me suis régalé.
Complètement. Moi, je l'ai vu en direct. Je pensais le faire à la fin de la séquence, mais je remercie énormément Marc Orfila, notre rédacteur, puisqu'à la base, moi, je prends les restes. Donc, tout le monde s'était placé sur les matchs, il restait Jets Browns. Bon, qui n'a pas été un mauvais match, hein, au demeurant. Mais je me retrouvais avec Jets Browns. Et là, Marc dit, je te prends le Jets Browns et je te laisse Dolphins Ravens. Et bien, écoute, merci beaucoup, parce que moi, j'ai passé un bon moment. Lui, il a souffert au début.
Non sans une petite vanne sur Tagovailoa aussi, qui a dû l'entendre, parce que Tagovailoa fait un super match.
C'est vrai. Moi, je me suis régalé, ça c'est sûr. Après, là où je te rejoins, c'est sur le coach. Tu disais, en effet, Mike McDaniel, parce que au début de la deuxième mi-temps, notamment d'ailleurs, je disais sur le chat de la rédaction, les mecs sont menés de beaucoup et ils vont lentement. Et ce qu'on m'a répondu, notamment Marc d'ailleurs, qui est un fin observateur des 49ers, c'était justement, c'est l'école Shanahan, il va prendre son temps, etc. Et au final, si je suis pas mauvaise langue, c'est aussi une bonne chose. Ça veut dire qu'ils n'ont pas agi que par coup d'éclat, c'est qu'il y a aussi la construction d'un fond de jeu qui est en cours avec ce coach-là. Donc pourquoi pas, encore une fois, ça demande confirmation, mais c'est vrai qu'il y a eu des beaux éclairs. Tu parlais du touchdown sur Gesicki, ça montre aussi que Tagovailoa sait placer un ballon. Alors c'est un poil haut, mais c'est là où son receveur peut aller la chercher. Voilà, où il n'y a que lui qui peut aller la chercher, dans des zones où il y a beaucoup de monde comme ça dans la end zone. Donc il a des qualités de placement de balle, etc. C'est ce que je disais, il faut faire le deuil du bras énorme. C'est pas Patrick Mahomes, ça sera jamais Patrick Mahomes, c'est pas Josh Allen, etc. Mais il y a des qualités. Enfin, ils ont explosé. Ceci étant dit, il y a quand même une défense des Ravens qui a ouvert les portes, parce qu'il n'y a qu'un seul sac sur ce match pour eux. Il n'y a pas de pass rush, alors que tu sais que ça va lancer, puisque tu mènes quand même largement. Les cornerbacks et les safety se trouvent quand même assez violemment. Ils prennent 461 yards dans les airs, 547 yards au total. C'est un fail d'ensemble ou tu as vu un secteur de la défense qui a souffert en particulier?
Non, je pense que c'est un fail d'ensemble, parce que, encore une fois, le jeu au sol n'a pas été incroyable. J'ai pas les statistiques en tête, mais je crois que c'est à peine plus d'une centaine de yards. Donc, c'est sûr que c'est pas là qu'ils les ont enfoncés.
Pour Miami, oui, c'est 86 seulement même.
Voilà, 86. Donc c'est même pas une centaine de yards. Mais je trouve que c'est ce qui a aussi permis d'ouvrir les portes. Et du coup, ce qui fait que cette défense-là, elle s'est délitée au fur et à mesure. au fur et à mesure de... Et il y a aussi peut-être le facteur fatigue. Tu disais les drives étaient longs, notamment de Miami, notamment en début de deuxième mi-temps. Il peut y avoir ce facteur fatigue-là. On a toujours du mal à le prendre en compte parce que les joueurs, c'est compliqué. C'est un sport tellement particulier. Mais une défense, elle fatigue quand les coups de boutoir arrivent. Quand on a un Tyreek Hill qui fait des sprints à 2000 à l'heure à chaque fois, même s'il n'a pas le ballon, on ne le voit pas. Mais ça fatigue un cornerback. Alors peut-être que lui, il est aussi entraîné pour pouvoir le suivre. Mais ça peut fatiguer. On a vu, il y a un énorme trou sur un des touchdowns de Hill, je sais pas lequel c'est, je crois que c'est le premier, où le cornerback qui est rookie le laisse passer en pensant que ça aussi c'est des choses qui peuvent arriver avec la fatigue. Donc bon, là on cible une chose, mais je pense qu'en effet c'est vraiment toute une défense. Il y a des interceptions qui auraient dû être, je pense notamment au safety qui vient des Saints, Williams, Marcus Williams, je suis désolé, je l'avais plus, qui intercepte un ballon, mais qui doit en intercepter un deuxième aussi en deuxième mi-temps, ce qui peut faire basculer le match. Donc il y a beaucoup de petites choses qui ont fait que c'est devenu de grandes choses, et cette défense-là, elle s'est délitée au fur et à mesure du match.
Les Ravens, en fait, ont été trahis par tout ce qui faisait leur force historique, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a la défense, et puis il y a le jeu au sol, parce que quand tu mènes 35-14 et que tu es Baltimore, on pourrait attendre de toi que tu tues le match au sol. Et en fait, si t'enlèves Lamar Jackson, qui a en plus une course de 79 yards sur son total de 119, donc ça fait gonfler largement le chiffre, mais si t'enlèves Jackson, leur meilleur coureur, c'est Justice Hill avec 16 yards. Alors, je sais qu'il y a des blessés, mais en fait, c'est aussi ça pour moi qui est inquiétant, parce que tu peux difficilement reprocher grand-chose à Lamar Jackson et même à ses receveurs, pour le coup, ce qui a été leur faiblesse à une époque. Mais là, en fait, ils sont aussi lâchés par leur jeu au sol. Ils devraient tuer le match plutôt que de lancer le ballon.
Oui, c'est exactement ça. Alors, on s'est aperçu en début de match que Jackson allait moins courir. Et il a bien fait. Et en effet, il court pas beaucoup. Je crois qu'il a 9 courses ou quelque chose comme ça.
Déjà la semaine dernière, il courait moins aussi.
Donc c'est peut-être un... Mais est-ce que, du coup, c'est en effet, ils courent moins parce que ils peuvent plus ou ils sont moins efficaces en courant? Et on le voit parce que quand ils doivent courir, soit ils le font pas, soit ils le font mal. Ou pas très bien. Donc c'est vrai que ça pose question pour une équipe qui, depuis quelques années, et j'ai envie de dire depuis que Lamar Jackson est là, presque, a fait sa force quasi exclusivement sur ce jeu au sol qui était incroyable. Ben là, il est plus en difficulté. Alors, le jeu de passe a pris le relais, le jeu aérien a pris le relais, mais il y a des moments de match où on a besoin d'un jeu au sol, quoi qu'il arrive, et peu importe les équipes, il y a des moments de match, il y a des moments de saison où on a besoin d'un jeu au sol. Et s'ils l'ont plus ou ils l'ont plus aussi performant, ça peut leur poser des problèmes. Et là, ça leur a posé problème parce que c'est vrai qu'objectivement, ils doivent gagner ce match-là. Ils sont à 21 points d'avance dans le quatrième quart-temps. C'est peu importe la situation, c'est un match qui doit être gagné.
Ça montre la progression de Jackson, si on prend le positif, parce qu'à une époque, un match où ils auraient eu un coureur à 16 yards à côté de lui, ils n'allaient pas très très loin, ils n'allaient pas à 38 points en tout cas. Jackson qui était à 21 sur 29, 318 yards, 3 touchdowns, 119, donc ça c'est dans les airs, et 119 yards et un touchdown au sol, il pouvait difficilement faire plus. Après, bon voilà, il fait un exceptionnel début de match, il cale un peu en deuxième mi-temps, mais encore une fois, c'est dur de tenir ce niveau-là pendant 60 minutes. Et si t'es lâché totalement par la défense et le jeu au sol, bah.
Puis ils mettent 38 points quand même.
C'est ça, ils mettent 38 points. Ils mettent 38 points. Donc
il y a
pas
un beau kick-off return, mais bon.
C'est ça. Oui, c'est vrai qu'ils avaient démarré le match avec un retour de kick-off pour un touchdown. Miami est à 2-0. Énorme test la semaine prochaine contre les Bills. Ce sera un des matchs de la semaine maintenant, assurément. Et Baltimore est à une victoire et une défaite. On enchaîne avec les Raiders et les Cardinals. 29 à 23 pour les Cardinals en prolongation. Encore une énorme remontée. Les Raiders menaient 20-0 à la mi-temps. Sauf qu'ils ont un peu arrêté de jouer après ça et que les Cardinals se sont réveillés, que ce soit en attaque ou en défense. En attaque d'abord, Lucas, Kyler Murray a fait de la magie, 31 sur 49, 277 yards, un touchdown, une interception, une conversion à deux points assez folle où il passe 1000 ans à gagner du temps, à attendre, à faire des petits déplacements, etc. pour finalement y aller tout seul au sol. Ils ont converti 2 fois à 2 points d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont enfin lancés en attaque ?
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils soient enfin lancés en attaque dans le sens où là ça repose beaucoup sur les épaules et le talent et le talent de Kyler Murray. C'est vrai que tu l'as dit, les trois premiers quart-temps sont inquiétants offensivement, un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu déjà. Et puis Kyler Murray nous prouve qu'il a un talent incroyable. Il a été beaucoup critiqué, notamment durant l'intersaison. Et c'est vrai qu'il est vraiment, il est impressionnant. Tu parlais de magie, c'est vraiment ça. Il court, et en plus il est pas très grand par rapport aux autres, donc ça donne une impression encore plus de fluidité, d'un joueur qui passe à travers les montagnes. Maintenant, Est-ce que c'est vraiment une progression offensive notable? Je me dis que la semaine prochaine, si Murray est un petit peu en dedans ou s'il fait pas de miracle, l'attaque ne va pas le porter. Donc, je suis pas sûr de me dire que c'est une progression. Maintenant, ils gagnent ce match qu'ils doivent jamais gagner. Ils le gagnent en prolongation, certes, mais ils reviennent avec un bilan à 1-1. C'est des matchs, ça, on n'en parle plus. Les gagnés, on n'en parle plus. Donc, peut-être que ça peut aider, mais je suis pas encore convaincu par l'attaque dans son ensemble.
Pour finir sur Murray, est-ce que tu sais combien de yards il a parcouru sur la conversion à deux points? Tu l'as la stat
je crois l'avoir lu. Je crois que c'est 89,5 ou quelque chose comme ça.
C'est 84,85. Ah, ouais. Donc quand on dit parcouru, évidemment c'était une conversion à deux points. Donc voilà, mais c'est en fait c'est tous les petits pas qu'il a fait, les détours, les tours, et en fait les stats de nouvelle génération de la NFL maintenant calculent. Je crois qu'ils ont une puce sur les joueurs maintenant, hein, si je dis pas de bêtises, ou un petit truc. Et donc il a parcouru 84 yards pour faire une conversion à deux points. J'avoue que moi j'écoutais le podcast de nos confrères de Around the NFL, le podcast américain de la NFL, et en fait quand ils ont dit la stat au début, je croyais que c'était qui rigolait en fait, tu vois, qui disait ouais il a fait 84 yards etc, et donc en fait je suis allé vérifier, tu vois, vraiment sur le site de la NFL en me disant non, c'est pas possible, ils disaient une bêtise pour rigoler dans l'émission. Donc 84 yards, ouais, pour la conversion à deux points. Et pour l'attaque, tu vois, je serais un peu plus positif que toi. Je trouve qu'il y a du positif, en tout cas statistiquement, ils sont à 143 yards au sol, à 5,1 yards par course, il y a 9 receveurs touchés par Murray, il y a seulement un sac, et c'était des drives longs et construits. On a parlé un peu de ça pour Miami tout à l'heure, mais là vraiment, sur tous les drives où ils vont chercher des points, c'est des drives longs et construits, c'est pas que des coups d'éclat, des bombes, ils gagnent sur un fumble retourné pour un touchdown, mais... Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle de les voir construire quand même un petit peu offensivement et avoir quelque chose sans DeAndre Hopkins, toujours quand même, qui est leur receveur numéro 1. Donc voilà, tu disais sur Miami tout à l'heure, est-ce qu'il faut y voir une mi-temps ou une progression? On est un peu dans la même question. Là, j'ai pas de réponse, je sais pas. Peut-être que c'est une progression, peut-être que c'était qu'une mi-temps, mais sur cette mi-temps-là, c'était pas mal.
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà. Et après, en défense, ils limitent les Raiders à 3 points en deuxième mi-temps. Ils arrachent deux fois le ballon des mains d'Hunter Renfrow en prolongation. La première fois, les Raiders recouvrent. La deuxième fois, Byron Murphy récupère le cuir, marque le touchdown de la gagne après une course de 59 yards. Ils n'ont pas fait des choses exceptionnelles en défense. C'est marrant parce que là, pour le coup, je parlais de stats pour l'attaque, mais il n'y a pas beaucoup de sacs. Il n'y a pas beaucoup de ballons volés dans le temps réglementaire. Il n'y a pas de ballons volés dans le temps réglementaire d'ailleurs en défense. Mais ils ont été solides.
Oui, ils ont été très solides. Après, il y a une statistique qui est un petit peu trompeuse. Il n'y a pas beaucoup de sacs, tu l'as dit, mais il y a énormément de pénalités, notamment de pénalités. Il y a eu en fait dans ce match, il y a eu énormément de pénalités. Je crois, et je me suis noté parce que ça m'a frappé quand j'ai regardé le match. Alors déjà, les Cardinals aussi, eux encaissent beaucoup de pénalités. Ils en encaissent 12 pour 120 yards de perdu. Et de l'autre côté, les Raiders en encaissent 10 pour 68 yards de perdu. Et alors, il y a beaucoup de pénalités pour des formations illégales, pour des joueurs de la ligne offensive qui anticipent un petit peu trop, qui sont un petit peu mis sous pression, notamment en fin de match, et du coup qui font que certes la statistique ne se gonfle pas en défense, mais quand même la défense des Cardinals a réussi à mettre la pression sur l'attaque en général des Raiders, qui du coup se sent un peu perturbé, qui est obligé de faire des erreurs des erreurs d'indiscipline et qui les font perdre. Après, oui, cette défense là elle a très bien commencé. Je crois que le premier drive, il y a un super sac de JJ Watt, et ensuite c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose statistiquement, mais il y a eu de la progression, il y a eu une montée en puissance, et jusqu'à la fin de ce match là parce que en effet l'attaque fait des miracles, mais si la défense derrière n'assure pas, ils étaient loin au score. Si la défense n'assure pas, ce match il est jamais gagné.
Est-ce que c'est inquiétant pour les Raiders, ce qu'on n'a pas l'air de trouver la formule? Davante Adams, par exemple, a été ciblé 17 fois en première semaine, on disait qu'ils avaient surciblé. Là, il est ciblé 7 fois, mais il n'y a que 2 réceptions pour 12 yards. Il y a un touchdown, bon, dans le lot. Est-ce que c'est mieux quand même que ça a été mieux réparti? J'ai l'impression que Josh McDaniel cherche son identité offensive pour l'instant. Autant John Gruden, on savait que c'était, il voulait aller au sol, par exemple. Bon, pour le meilleur ou pour le pire, mais là, pour l'instant, Josh McDaniel, on ne sait pas trop.
Mais encore une fois, je regardais ce match en sachant qu'on allait en parler dès ce soir. Je le regardais tout à l'heure en me disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire comme bêtise, certainement. Et quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit ah ça y est, McDaniel, il a utilisé en fait le premier match comme la pré-saison, et maintenant ça y est, il a enfin trouvé la formule. Tu l'as dit, il y a eu beaucoup de distributions, on a beaucoup plus vu Waller, on a beaucoup plus vu Renfrow, on a même vu un peu plus de jeu au sol, donc c'était beaucoup mieux distribué. Adams marque ce touchdown sur une sorte de passe écran très près de la ligne de la end zone. zone. Donc on se dit que ça y est, ça a été trouvé, comme tu l'as dit. On y a une, et puis en fait ça commence en deuxième mi-temps, il y a plus rien. Alors je suis très perturbé vis-à-vis de cette attaque là parce que il y a de belles choses. On a vu un Adams incroyable la semaine dernière, on a vu les autres joueurs très bons là cette semaine. Il va falloir trouver un moyen de rendre tout le monde bon en même temps. Et c'est vrai que pour l'instant, il a pas réussi. On n'est qu'au deuxième match, mais on le sait, en NFL, deux matchs passés, c'est déjà deux matchs trop tard presque.
Bah, c'est 0-2 surtout pour eux. Donc là, ça va commencer dans une division qui est extrêmement difficile.
Ah, oui.
Donc deux matchs de retard déjà sur... Alors pas les Chargers, parce que les Chargers ont perdu contre les Chiefs, mais du coup les Chiefs sont à 2-0. Les Broncos à 1-1, les Chargers à 1-1. Donc bon, ils sont pas encore très très loin. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention et puis surtout il va falloir vite se mettre en ordre de bataille parce que comme tu l'as dit, c'est très très costaud, c'est très costaud. Enfin, je sais pas, moi je suis pas très rassuré en effet sur ce manque d'identité pour l'instant. On va voir comment ça avance pour eux, mais même défensivement, tu vois, c'est
défensivement c'était un petit peu
paracou, quoi.
Ouais, c'était un petit peu prévu, mais c'est vrai que c'est très perturbant cette équipe-là. Elle est, je me dis qu'elle a pas le pot, elle est meilleure que son bilan. Ça c'est toujours le poncif qu'on dit souvent. Elle est meilleure que le bilan qu'elle affiche. Mais en même temps, un bilan est toujours très révélateur à NFL. Donc s'ils ont perdu, c'est que là ils doivent gagner ce match. On parlait des Ravens tout à l'heure. Là, et puis en prolongation, ils récupèrent le ballon. Ils font tout pour perdre ce match. J'ai l'impression Renfro, il perd deux ballons. Il y a une juste entre les deux fumbles, il y a une interception qui est lancée par Carr, qui est droppée, mais qui doit être récupérée par les Cardinals 10 fois. Donc j'ai beaucoup de mal à juger cette équipe.
On parlait tout à l'heure de la période où il y aura le chauffage et moins de luminosité. Tu le vois venir qu'à ce moment-là on dira c'est quand même la meilleure équipe avec 6 victoires de la ligue à la fin de la saison.
Ouais, ça a été et peut-être que c'est une très bonne transition que je suis en train de faire, mais ça a été les Colts pendant un moment. À un moment les Colts c'était très souvent ça.
C'est un peu vibes Colts, Falcons, ce genre d'équipe-là. Jaguars 24, Colts 0, très bonne transition en effet, Lucas, parce qu'on va parler d'Indianapolis qui est reparti pour être une des meilleures équipes avec un mauvais bilan de la Ligue, parce que là, ça s'est très très mal passé pour eux dans ce match. Mais on va parler du positif quand même, parce que ça fait... Je pensais pas qu'on aurait les Jaguars dans le débrief des meilleures affiches de la semaine si rapidement, et pourtant, Trevor Lawrence est arrivé, en tout cas, il a joué son meilleur match en NFL. 25 sur 30, 235 yards, 2 touchdowns, plus calme, des meilleures décisions, bien aidé par un plan de jeu avec pas mal de passes courtes. C'est pas parfait, mais c'est bien mieux. Est-ce que Doug Peterson commence à faire effet, Lucas ?
Avant toute chose, c'est vrai que je pensais pas que les Jaguars allaient être si tôt dans le débrief. C'est un peu de ma faute. Hein. C'est un peu de ma faute. J'ai mal.
Je voulais pas le dire à l'antenne.
Tu peux y aller. J'ai un peu mal compris les instructions données en haut lieu et c'était pas forcément ce match-là. Mais ça me ravit tout de même de parler de ce match-là parce qu'il y a des choses à dire. Et en effet, il y a des belles choses du côté de Jacksonville. J'ai beaucoup aimé et ça par ricochet, tu vas voir, je reviens à ce que tu dis, mais j'ai beaucoup aimé le duo Robinson Travis Etienne qui en fait permet à cette attaque d'être beaucoup mieux déjà, d'être très complémentaire, d'être beaucoup mieux équilibré et de libérer un petit peu de pression sur Trevor Lawrence, qui en a énormément tout de même, et je suis pas un fan de Lawrence depuis le début, certains s'en sont rendu compte, mais il en a énormément de pression, premier choix de la draft, voilà, beaucoup de regards sur lui, et là il en a un petit peu moins, et en effet Doug Peterson arrive à le mettre dans des conditions où s'il est en danger il peut trouver Etienne très rapidement sur une passe écran ou sur un petit ballon sur le côté. Etienne qui est très bon dans cette situation là, l'autre running back qui aussi peut être très bon. Donc en effet et du coup il prend des meilleures décisions, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus calme, tu l'as dit, et il fait un très bon match. Je me demande, j'ai pas vu tous ses matchs depuis qu'il est là, en tout cas en détail, mais je me demande si c'est pas son meilleur match depuis qu'il est en NFL, Trevor Lawrence.
C'est probablement son meilleur match clairement, et je suis d'accord avec ce que tu dis au sens où il gère intelligemment, le plan de jeu est intelligemment géré et il y a une intention claire. On parlait de l'attaque des Raiders tout à l'heure, là les résultats, ils sont pas dingues, parce que quand tu parles de James Robinson et Travis Etienne, ils sont à 2,6 yards de moyenne par course, mais il y a une volonté qui est claire, il y a 37 courses pour les Jaguars dans ce match, contre 30 passes, on va mettre notre quarterback à l'aise, on va lui donner des solutions avec des mecs qui peuvent faire des réceptions proches, Travis Etienne prend 3 ballons et James Robinson prend 2 ballons aussi à la réception, et Van Engram, le tight end, prend 7 réceptions, c'est le plus gros receveur, donc c'est intelligemment joué, et il y a un vrai plan autour. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis ouais, Laurent, c'est quand même enfin serein, 25 sur 30. En effet, je pense qu'en termes de taux de passe complété, il a jamais dû atteindre autant, même dans des défaites. C'est pas flamboyant sur le nombre de yards, parce que 235 yards pour 30 passes tentées, ça peut être mieux. Mais au moins, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de ballon perdu. Ils ont joué intelligemment. C'est un match complet du début à la fin pour Jacksonville, ce qui est aussi dur en général pour les équipes comme ça qui sont en pleine croissance. Donc franchement, il n'y a pas tant de choses que ça à analyser pour Jacksonville, en dehors de dire il faut continuer, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est comme sur le bulletin scolaire, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis le fait d'avoir un bon jeu au sol, on le dit souvent, mais ça permet aussi de garder le ballon, de maîtriser son timing, tu l'as dit. Et puis j'aime beaucoup, je le répète, mais ce duo de running back avec Robinson, que j'ai appelé Cam et qui s'appelle James, tu as bien fait de le remarquer, mais qui sont complémentaires dans le sens où eux, ils sont complémentaires et en même temps, ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, quand il y a Etienne, bon, ça va forcément être de la passe. Ça met de l'incertitude, les deux sont très bons. Et comme tu dis, il faut continuer sur ça, garder ce ballon-là et pouvoir avancer en attaque tranquillement, mettre un peu moins de pression sur cette défense qui, du coup, est presque meilleure parce qu'elle est plus productive, en tout cas. Donc franchement, c'est vrai que c'est depuis bien longtemps un vrai match où il y a de l'espoir pour les Jaguars. Et ça doit faire du bien du côté de Jacksonville, oui.
38 minutes de possession, notamment grâce à leur jeu au sol pour les Jaguars. Ça a été beaucoup moins bon donc pour Indianapolis. Matt Ryan, 16 sur 30, 195 yards, 3 interceptions. Raphaël est allé très loin. Raphaël Masmejean a fait les leçons de la semaine sur le site en disant qu'il était déjà à la retraite, Matt Ryan. Est-ce que tu es d'accord? Ou en tout cas, de dire que le fait de changer de quarterback tous les ans pour prendre un vétéran à tour de rôle, au bout d'un moment, pour les coachs, ça ne marche plus. Et là, ça pourrait être l'année où ça ne marche pas du tout.
Oui, ça pourrait très bien être le cas. Pour le coup, alors c'est toujours la même chose. Qui est le responsable? Il a pas grand chose autour de lui, Matt Ryan, et il est plus capable de rendre les joueurs meilleurs avec lui. Pittman n'était pas là. Ils étaient obligés de se retourner vers des receveurs qui sont des receveurs remplaçants ou moins utilisés habituellement. La ligne offensive a été mise sous les coups de butoir des Jaguars. Et vraiment, il a été en grande difficulté, il a été mis sous pression. Donc, c'est-à-dire que même à sa meilleure forme, ça aurait été compliqué pour lui, difficile. Il aurait pu s'en sortir, mais là, comme tu le dis, là, il peut plus trop s'en sortir. Donc, est-ce que j'ai viré aussi loin en disant il va être à la retraite? Non, parce qu'il a de l'expérience, parce que c'est un très bon joueur et que peut-être que la semaine prochaine, ça ira mieux. Maintenant, je pense qu'on verra plus le Matt Ryan qu'on a eu l'occasion de voir. Et ça, c'est compliqué parce qu'autour de lui, c'est inquiétant.
C'est le but un peu des leçons de la semaine, c'est de forcer un peu le trait. Donc en effet, j'irai pas comme Raphaël jusqu'à dire qu'il a la retraite ou quoi que ce soit. Après, en fait, c'est pas une erreur de casting si tu dis on a Matt Ryan avec une ligne offensive solide, un jeu au sol qui gagne 150 yards par match et une défense qui fait un boulot moyen plus, voire bon. Mais c'est une erreur de casting si en effet tu dis à Matt Ryan va falloir lancer en l'occurrence il lance 50 ballons sur le premier match, il en lance 30 là, donc il en lance moins. Mais c'est une erreur de casting si tu dis Coco, il va falloir que tu nous gères l'attaque et que ce soit toi qui porte tout le monde. Il peut plus, tu le disais bien, il peut plus et il peut pas sans Michael Pittman, il peut pas avec ce qu'il a sous la main. On a eu des débats sur les groupes de receveurs en long, en large et en travers dans les pastilles de pré-saison, mais là quand tu regardes la liste, son meilleur receveur aujourd'hui c'est Ashton Delin. Sur ce match-là, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui sont en NFL, mais Ashton Delin, est-ce que tu savais qu'il était dans sa quatrième saison dans la ligue?
Non, moi j'ai vu Dulin, j'ai vu Dulin, je croyais que c'était l'arrière de La Rochelle, moi.
Dulin, c'est
un joueur de rugby. Non, c'est un joueur de rugby. Je croyais que c'était un joueur de rugby. Non, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est déjà que le groupe de receveurs en lui-même est pas hyper complet. Si en plus il y a un ou deux blessés, ce qui peut arriver dans n'importe quelle équipe. Ça complique les choses. Après, je suis pas sûr qu'il l'ait pris en se disant que c'est lui qui allait porter l'attaque, parce que normalement, ce devrait être Taylor qui porte cette attaque-là. C'est le meilleur joueur offensif. Le problème, c'est qu'un running back, il est un peu comme un quarterback, mais encore plus peut-être qu'un lanceur, il dépend de sa ligne offensive. Et là, pour le coup, les manques sont criants. Il peut pas faire grand-chose. Alors, il essaye, hein, il est très bon, mais il peut pas faire grand-chose. Et du coup, la pression se retourne sur le quarterback, qui est mis vraiment sous pression, pour le coup. Donc, c'est vrai que je vois pas beaucoup d'issues pour l'instant pour les Colts.
Leur bilan sur ce match, il est dramatique. Ils ont eu 10 possessions offensives, 5 ballons perdus, 5 punts.
Et puis quand tu commences ta saison en faisant match nul contre Houston et en perdant contre Jacksonville, qui sont quand même considérés comme deux équipes qui sont plutôt en bas qu'en haut, quand ça va jouer contre des équipes qui sont plutôt en haut qu'en bas, je vois souffler, je souffle aussi.
Ouais, c'est très très. Ça pourrait être une des grosses déceptions de la saison. On les attendait pas forcément parmi les prétendants au titre, mais ils étaient quand même censés se battre pour au moins leur division. Là, ça s'annonce un peu compliqué. Je note quand même 5 sacs et 11 quarterback hits pour les Jaguars, juste pour finir sur une note positive. Il y a un petit truc qui monte quand même avec cette défense de Jacksonville.
Eh ben, tu notes bien parce que je me suis noté en tout dernier, le dernier truc que je voulais mentionner. En effet, il y a une ligne défensive qui, franchement, et Josh Allen, on le savait, l'année dernière, il avait été bon, mais il confirme. Trayvon Walker est plutôt bon aussi. Alors, les statistiques le montrent pas forcément, mais il met un, si je peux me permettre l'expression, il met un bordel dans la ligne qui franchement fait du bien pour les autres. Et puis, il y a Robertson Harris. Il y a vraiment une ligne qui est solide, qui pour l'instant peut-être pas la meilleure ligne de la ligue, mais qui est très jeune, qui peut progresser et qui aide beaucoup le reste de cette défense-là. Et franchement, en effet, c'est un des vrais bons points et points forts de cette défense et de cette équipe en général.
Bon, mais c'est une note positive pour une jeune équipe pour finir cet épisode numéro 507 et cette première partie du débrief de la deuxième semaine de la saison NFL 2022. Ça fait énormément de chiffres. Hein. Heureusement que je fais pas, tu sais, saison 12, épisode 4 du coup de la saison. Je sais plus, 4 ou 5. Bref. En tout cas, c'était le 507. Merci beaucoup, Lucas. On se retrouve dès demain ensemble avec Raphaël Masmejean.
Je m'excuse juste auprès des supporters des Cowboys et des Bengals.
Oui, bah voilà. Donc du coup, tu l'avoues à l'antenne, on donne les coulisses. En effet, c'était le Cowboys Bengals qui était prévu normalement en troisième affiche.
À demain.
Et juste avant l'antenne, Lucas me dit, tu me rappelles les trois matchs. Et donc je lui dis le troisième et je vois sa tête qui change et il me fait, attends, t'es sûr que c'était celui-là? Je dis bah ouais, le conducteur, il y avait ça dessus. Bon, et c'est pas grave. On avait déjà des notes sur les deux matchs, donc on a fait ça. Donc on retrouvera en effet les problèmes de Joe Burrow. C'est bien, ça fait un petit teaser. Joe Burrow est-il entièrement responsable des sacs qu'il prend? Vous le saurez demain en écoutant Touchdown Actu avec Raphaël Masmejean et Lucas Vola. En attendant, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux @TDActu sur Twitter, Facebook, Instagram, c'est Touchdown Actu en entier. Twitter, c'est @ElVola pour Lucas, @AlainMattei pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, tdactu.com. À demain tout le monde, à demain Lucas.
Ciao ciao.
Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en tdactu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en tdactu. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.